Chapitre 43. Margot était sur le point de s'installer sur son fauteuil pour regarder le jeu télévisé Jeopardy quand quelqu'un se mit à tambouriner à la porte.
« Ça va, j'arrive !»
ronchonna-t-elle. Buddy Lee se tenait sur le perron.
« Eh ben, t'as encore plus une sale tête que la dernière fois !»
commenta-t-elle. « Ça fait combien de semaines que t'as pas dormi ?»«
Je vois que t'as toujours le compliment aussi facile. »
C'est un don.
T'as acheté un nouveau pick-up?
Il était temps. Buddy Lee écarta une mèche de cheveux de devant son visage. L'espace d'un instant, Margot crut apercevoir un éclat du beau jeune homme qu'il avait été jadis.
Nah, il appartient à un ami, expliqua Buddy Lee. Je voulais te dire, t'es une bonne voisine. Tu te fais du souci pour moi, et tu viens régulièrement vérifier que je finisse pas comme une cerise dans un bocal d'eau de vie. Bref, j'ai l'impression que t'es la seule personne sur cette foutue planète qui s'inquiète de ma santé.
C'est gentil de ta part? Mais pourquoi tu parles comme si tu t'apprêtais à partir à la guerre?
J'ai jamais eu trop de filles parmi mes amis,
avoua Buddy Lee en posant un pied sur la dernière marche du perron.
J'ai connu un paquet de femmes, mais je peux pas dire qu'il y en a beaucoup que j'ai considérées comme des amis. Je crois que t'es la première, Margot.
Il s'interrompit quelques instants avant de poursuivre.
« T'es quelqu'un de bien et t'es une bonne amie. Prends soin de toi. »«
Qu'est-ce qui se passe, Buddy Lee ?» demanda Margot. Et celui-ci lui décocha un sourire.
« Je te jette des fleurs tant que t'es encore vivante pour en profiter, ma belle. »
Il recula d'un pas et leva deux doigts pour la saluer avant de s'éloigner vers le pick-up et de prendre place sur le siège passager, pour disparaître quelques secondes après dans un nuage de poussière.
Allez Gatsby, terminus, tout le monde descend,
annonça Buddy Lee. Il aida Ike à transférer le vieillard de la benne à l'intérieur de la bâtisse rouge, où ils l'assirent sur une chaise pliante en métal et le ligotèrent. La chaise se trouvait juste à côté d'un bidon de 200 litres, à la base duquel était fixée une boîte d'où sortaient plusieurs fils électriques.
« Je vais déplacer le pick-up, » annonça Ike. « Garde un œil sur lui. »«
Je vais essayer de pas le tuer, »
promit Buddy Lee. Puis, voyant les yeux écarquillés de leur prisonnier, il ajouta
« Calme-toi, vieux crouton, c'était une blague. »« Dépêche-toi, »
reprit-il à l'intention d'Ike.
« Si tu rates l'autre portail, continue jusqu'à la poste et fais demi-tour. Ouvre l'œil, il n'est pas facile à repérer. »
« Et t'es sûr qu'il apparaît pas sur les cartes, ton chemin secret ?»«
Personne est censé être au courant de son existence. Chet l'a jamais déclaré, une histoire d'impôt ou je sais pas quoi. Le portail est même pas verrouillé. »
Ike alla garer le pick-up devant l'entrée clandestine, puis suivit un sentier qui retournait à l'entrepôt en contournant une cabane en tôle. L'hiver refusant d'abdiquer en faveur du printemps, les dernières nuits avaient été fraîches. Mais ce soir, l'air était étouffant. Si bien que lorsqu'il retrouva Buddy Lee, Ike avait le front luisant de transpiration. Buddy Lee était assis sur un banc contre le mur du fond, un AR-15 avec chargeur rallongé à la main. Ike récupéra un fusil automatique dans une caisse et remplit le chargeur tambour de munitions à haute vélocité. Après quoi, il tira une chaise, s'installa à la table et consulta sa montre. 19h30.
Tu penses qu'il y a un truc après tout ça ?
Demanda Buddy Lee.
Après la mort, je veux dire.
Ah, tu t'inquiètes pour ton âme, Buddy Lee ?
Railla Ike, qui tenait son arme comme on berce un nouveau-né. Buddy Lee s'éclaircit la gorge.
Disons que, s'il y a vraiment quelque chose, je connais déjà ma destination, et je l'ai acceptée depuis longtemps. Ce que je me demande, c'est, est-ce qu'on va revoir les garçons ? Si les choses se passent mal ce soir, est-ce que tu crois qu'on pourra au moins les croiser en descendant ?
Ike jeta un œil par la fenêtre. Le soleil s'était couché, remplacé par une demi-lune.
« J'espère pas, »
répondit-il.
« Comment ça ? Moi, le seul truc qui fait que je me raccroche encore un peu aux conneries que débitait notre pasteur en agitant ses serpents tous les dimanches, c'est justement l'espoir de revoir mon fils. De pouvoir lui dire toutes les choses que j'aurais dû lui dire avant qu'on me l'enlève.
Tout ce que je voudrais dire à Isaiah... c'est que je suis désolé. Et même avec l'éternité devant moi, je lui répéterai jamais assez.
Je
le répéterai jamais assez. »
La voix d'Ike n'était plus qu'un murmure à peine audible. Soudain, ils perçurent au loin le rugissement de plusieurs motos. Sans un mot, ils se levèrent. Buddy Lee coupa les colliers de serrage qui maintenaient Gatsby attaché à la chaise pliante.
« Debout !»
ordonna-t-il, et il saisit le vieillard par le bras pour l'escorter jusqu'au rideau métallique. Ike actionna un bouton sur le mur, et le rideau se hissa au ralenti. Il se plaça alors épaule contre épaule à droite de Gatsby, en tenant fermement son fusil à deux mains. Buddy Lee fit de même côté gauche. Quand il regarda sa montre, il vit qu'il était 19h45.
« Ils sont en avance !»
observa-t-il. « C'est comme l'histoire du champ de navet. Le loup se pointe à 6h du matin, mais le lapin est déjà passé.
Donc nous, dans ton analogie, on est les lapins, c'est ça ?»«
Non, on est les grizzlies que les loups ont pas vu arriver. »
Un escadron de Harley fit son entrée dans la clairière et s'arrêta au niveau du parcours de tir, face au hangar. Ike en compta 25, plus une Cadillac SRX, qui arriva une minute plus tard. Le Viking blond pilotait un chopper avec un guidon démesurément haut. À l'arrière était arrimé un gros paquet enveloppé dans une bâche verte. Le blond mit pied à terre, cala la moto sur sa béquille, et détacha l'étendeur qui maintenait la bâche en place. Lorsqu'il retira cette dernière, Ariana apparut dans son siège bébé. Celui-ci était fixé au porte-bagages par plusieurs mètres de corde. Ike hésita à abattre le biker sur le champ. L'atmosphère dans la clairière avait pris plusieurs degrés avec la chaleur des moteurs pétaradants. Gérald descendit de la Cadillac pour se placer à côté du Viking, les mains sur les hanches, le menton relevé dans un air de défi. Il arborait une chemise verte ouverte au col et un pantalon de ville. Buddy Lee serra son fusil. Il devina que Gérald faisait le fier pour masquer sa terreur. Un mécanisme de défense vu et revu.
« Ça va, papa ?»
cria Gérald. Gatsby secoua la tête.
« Qu'est-ce que vous lui avez fait ?»
cracha le juge.
« 3 fois rien !»
répliqua Buddy Lee en s'efforçant d'ignorer les limaces de transpiration qui rampaient sur ses joues.
« On lui a donné l'occasion d'observer comment vivent les gens d'en bas. C'est tout !» « Il va s'en remettre. Maintenant, libérez Ariana !»«
Vous connaissez l'histoire d'Alexandre le Grand et du siège de tir ?»«
Tu crois vraiment que c'est le moment pour une leçon d'histoire ?»
lança Buddy Lee, et Gérald esquissa un sourire.
L'île de tir était censée être imprenable, mais Alexandre l'a conquise en 6 mois parce qu'il était plus déterminé que tous les autres généraux. »
intervint Ike.
« On peut en revenir à notre échange maintenant. »
Le sourire de Gérald disparut.
« T'es pas le seul à avoir lu des livres, Winthrop, »
ajouta Ike.
« Relâchez mon père. »«
Libérez d'abord Ariana, »
répliqua Buddy Lee.
« Allez-y, Grayson, »
dit Gérald. Le chef des bikers détacha Ariana de son siège et la posa au sol. Le vent qui s'était levé faisait volter les cheveux bouclés de l'enfant.
« Coucou, petit bout !» lança Buddy Lee.
« Viens là, ma puce !»
dit Ike. Ariana avait à peine fait un pas vers eux que la main de Grayson agrippa son petit poignet. Ariana poussa un cri qui fit tressaillir Buddy Lee.
« Lâche-la !»
ordonna Ike.
« Laissez-moi faire, Grayson. J'ai la situation en main !»
intervint Gérald.
« Mon cul !» « Ces enfoirés détiennent votre père, et vous voulez les laisser récupérer la morveuse ? Hors de question ! On fait ça en même temps ! En même temps, alors ! »
acquiesça Buddy Lee.
« On libère le vieux, et vous libérez la petite !»
Il poussa Gatsby, qui avança d'un pas hésitant. Grayson lâcha le poignet d'Ariana.
« Dégage ! »
lança Grayson à l'enfant. Ariana fit quelques pas, avant de s'arrêter.
« Allez, viens, petit bout !»
l'encouragea Buddy Lee.
« Dépêche-toi !»
L'enfant éclata en sanglots. Gatsby, lui, avait déjà parcouru la moitié du chemin.
« Oh non, petit bout, pleure pas ! Rejoins-nous vite, ma puce !»«
Allez, ma chérie !»
insista Ike.
Viens. Viens retrouver papy. »
Elle fit un pas.
« C'est ça, ma belle. Continue. Papy est là. »
Enfin, Arianna se mit à courir de toute la force de ses petites jambes potelées et croisa Gatsby qui titubait vers son fils.
« Partons d'ici, papa !»
dit Gérald en lui désignant la Cadillac. Les autres membres des Sangpurs étaient descendus de leur monture et des armes étaient apparues comme par magie entre leurs mains. Ike mit un genou à terre, posa le fusil en équilibre sur son épaule et ouvrit les bras pour accueillir Arianna.
« C'est bien, ma puce. Tu es très courageuse. »
Déterminée à en découdre, Grayson se décala sur la droite et dégaina son 357 Magnum. Arianna tomba dans les bras d'Ike, qui la souleva de terre et récupéra aussitôt son arme avant de reculer dans la bâtisse, où Buddy Lee entreprit de baisser le rideau métallique. Dans la clairière, Gérald regardait son père avec un grand sourire. D'un coup sec, le vieillard arracha le Chatterton qui lui couvrait la bouche.
« Gérald, dans quelle histoire t'es-tu encore foiré ?»
rugit le patriarche. Mais il n'eut pas le temps d'entendre la réponse, car la fusillade éclatait. Une dizaine de balles percutèrent le rideau du hangar. Buddy Lee se précipita vers une des fenêtres et se mit à arroser la clairière de droite à gauche avec son AR-15. Les bikers se dispersèrent comme des cafards à la lumière. Certains se réfugièrent derrière les bottes de paille qui servaient de support aux cibles tactiques. D'autres retournèrent une des tables de pique-nique pour s'en faire un abri, mais la majorité se cacha derrière les arbres qui entouraient la clairière et commença à riposter. Ike ouvrit la caisse située près du mur du fond et venait de glisser Arianna à l'intérieur quand il eut l'impression qu'on lui avait enfoncé un fer chauffé au rouge dans le biceps gauche. Aussitôt, il se plaqua au sol et rampa jusque sous la seconde fenêtre où il se redressa pour vider le chargeur de son énorme fusil automatique vers l'obscurité. Dans la clairière, les feux rouges de la Cadillac s'allumèrent. Ike vit un petit groupe de bikers tenter une percée vers l'arrière du hangar. Il vida un second chargeur dans leur direction et les regarda danser comme des derviches tourneurs chaque fois qu'un projectile les atteignait.
« Oh non, enfoiré !»
songea Buddy Lee en apercevant la voiture qui se mettait en branle.
« Hors des questions que je te laisse filer comme ça !»
Il visa la Cadillac et lâcha une rafale. La carcasse en fibre de verre de la SRX ne faisait pas le poids face à la puissance de la R15, et l'aile se retrouva criblée de trous de la taille d'une pièce de monnaie, du pare-choc avant au pare-choc arrière. La voiture quitta la route, descendit un petit talus et termina sa course contre le tronc d'un gros chêne. Alors que Buddy Lee retirait son chargeur vide pour en insérer un neuf, il vit Ike en train de faire de même. Les bikers saisirent l'opportunité pour avancer en noyant la bâtisse sous un déluge de plomb. Ike se frotta les yeux. Sa main était rouge. Une pluie de plâtre et de métal s'abattait sur ses épaules. Ike et Buddy Lee avaient les armes les plus puissantes, mais les Sangpurs étaient bien plus nombreux. Buddy Lee se plaqua au sol, passa le canon de son AR-15 par la fenêtre et se mit à tirer à l'aveugle. Ike effectua un dernier tir de barrage avant de se débarrasser de son fusil automatique. Ils avaient éliminé quelques membres du club, mais pas assez. Vraiment pas assez. Pendant que Buddy Lee continuait à canarder l'ennemi, son compagnon se jeta à plat ventre, rampa jusqu'au bidon de 200 litres et actionna le compte à rebours, qui consistait en un vieux lecteur de CD trafiqué relié par un circuit basique à un interrupteur d'allumage de voiture, lui-même scotché sous le couvercle du bidon. Ike avait eu cette idée dès qu'il avait vu ce qui se trouvait dans la caisse près du mur du fond. C'était leur échappatoire, ce qui allait leur permettre de rendre enfin justice à leur fils. La justice par le sang. Ike savait qu'il leur faudrait quelque chose de puissant pour équilibrer le combat contre Gérald et ses bikers. Et quoi de plus puissant qu'un mélange hautement explosif d'essence et de nitrate d'ammonium, un engrais très efficace dont il possédait plusieurs sacs à son entrepôt. Les jardiniers n'étaient peut-être pas réputés pour leur collection d'armes à feu, mais leur arsenal ne se limitait pas pour autant à des pelles et des râteaux. Suivant des instructions trouvées sur Internet, Ike et Buddy Lee avaient presque entièrement rempli le bidon. Lorsque le compte à rebours arriverait à son terme, il enverrait une décharge à travers le circuit jusqu'à l'interrupteur, dont ils avaient dénudé les fils afin qu'une étincelle se produise. Une bombe artisanale toute bête, mais diablement efficace.
« On se casse !»
cria Ike. Il disparut dans la caisse contre le mur du fond. Buddy Lee tira une dernière rafale avant de le suivre. Il descendit l'échelle en aluminium jusqu'au tunnel creusé sous le hangar et rejoignit Ike, qui tenait Ariana dans ses bras. Grayson vida le barillet de son 357 Magnum à travers la fenêtre, retira les douilles et rechargea. Il ne lui restait que 12 balles. Dom prit le relais avec son Mac 11, imité par les autres frangins encore vivants. Grayson risqua un œil hors de sa cachette. La bâtisse ressemblait à un gruyère. À travers les trous, on apercevait au plafond un néon qui pendouillait lamentablement au bout de son fil, projetant une lueur pâle et mouvante. Grayson tira 3 balles de plus en direction de la fenêtre. Aucune riposte.
« Putain, je crois qu'ils ont leur compte !»
songea-t-il. Il se leva. Rien. Pas un bruit en provenance du hangar.
« On les a eus ! On les a eus !»
rugit-il. Et il s'approcha de Dom pour lui flanquer une bourrade dans le dos.
« Va les sortir de là ! Qu'on pende leur cadavre à une branche !»
Dom hésita. Il n'avait vraiment pas envie de tomber sur le corps de la petite fille.
« Me force pas à me répéter !»
lâcha Grayson. Dom prit sur lui et avança. Les autres membres du club encore en état le suivirent prudemment. D'un coup de talon, Dom fit voler en éclats ce qui restait du rideau métallique. Lorsque l'éclair orange envahit la totalité de son champ de vision, il eut le temps de voir apparaître un mot dans son esprit avant d'être vaporisé. « Karma ». Puis, ce fut le trou noir. Ike faillit laisser échapper un cri de joie lorsque sa main se posa sur un tube de métal froid.
« La sortie !»
Sans lâcher Ariana, il gravit un à un les échelons et atteignit rapidement le cabanon qui dissimulait la sortie du tunnel. Puis, il poussa la porte et inspira l'air de la nuit. Buddy Lee les rejoignit quelques instants plus tard, couvert de suie et toussant comme un tuberculeux. Ariana n'arrêtait pas de pleurer.
« Tout va bien, ma puce !»
tenta de la rassurer Ike.
« C'est presque fini !» Chet aurait quand même pu installer un meilleur système de ventilation dans son foutu passage secret,
maugréa Buddy Lee.
J'emmène Ariana au pick-up. Elle est terrifiée. Je t'attends ici. J'ai besoin de reprendre ma respiration. Quand tu reviendras, on ira jeter un coup d'œil à ce qui reste de nos amis motards, si tu veux bien.
Ça marche. Je reviens.
Je bouge pas.
Murmura Buddy Lee en regardant Ike et Ariana s'éloigner sur le sentier. Ike attacha sa petite fille sur le siège passager, puis il lança sur son téléphone un jeu où il fallait trancher des fruits avec un katana, et il posa l'appareil sur les genoux de l'enfant.
« Papy va vérifier un dernier truc, d'accord ?»
Déjà accaparé par le jeu, Ariana l'ignora. Ike et Buddy Lee descendirent en silence le sentier qui menait au hangar. L'odeur de leur surprise détonnante flottait dans la brise nocturne. Un mélange de chair brûlée et d'un produit chimique à mi-chemin entre le chlore et l'alcool.
« La vache !»
s'exclama Buddy Lee lorsqu'ils atteignirent la bâtisse, ou plus précisément l'endroit où s'était tenue la bâtisse, et qui était délimité par un anneau de flamme d'une trentaine de mètres de diamètre. Le hangar en tôle avait disparu. La dalle de béton qui servait de fondation était fendu en deux et intégralement noirci. Quant aux cibles tactiques éparpillées dans la clairière, il n'en restait que quelques ballots de paille qui achevaient de se consumer. Les motos que les bikers avaient pris soin d'aligner en arrivant ressemblaient désormais à un amas informe d'acier, de cuir, de caoutchouc et de chrome, au sein duquel on parvenait encore à reconnaître quelques éléments, un guidon, un cale-pied, une roue. Leur propriétaire avait subi le même sort. Ike tenait le revolver de Gatsby à la main. Buddy Lee avait son couteau pliant ainsi que la R-15 en bandoulière. Ils se déplaçaient de cadavre en cadavre, prêts à finir ce qu'ils avaient commencé, mais ils comprirent vite que ce ne serait pas nécessaire. Les sangs purs n'existaient plus. Les entrailles de ceux qui n'avaient pas péri dans l'explosion s'étaient liquéfiées sous l'effet du souffle. Ça et là, dans la clairière, on discernait quelques restes. Buddy Lee récupéra 2 bras dans un sapin. Deux bras gauches. Il secoua la tête.
Je crois que cette antenne des sangs purs a mis définitivement la clé sous la porte.
Ike s'apprêtait à réagir quand il entendit un faible gémissement en provenance de la Cadillac toujours encastrée dans son chêne. Les deux hommes échangèrent un regard. puis s'avancèrent vers la voiture dont les vitres avaient été soufflées par l'explosion. Gatsby était vautré sur le siège passager, un filet de sang s'échappant de son oreille. Tout le bas de son corps était baigné de rouge, et il flottait dans l'habitacle une forte odeur d'excréments. Ike posa deux doigts sur le cou du vieillard. Il était mort. Buddy Lee ouvrit la portière côté conducteur. Gerald Winthrop Culpepper s'écroula au sol comme un sac de linge sale, avec un râle qui sembla émaner du tréfonds de sa poitrine. Son pantalon beige avait viré au rouge bordeaux. Il commença à ramper pour s'éloigner de la voiture. Et Buddy Lee le suivit sur quelques mètres, bientôt rejoint par Ike. Finalement, Buddy Lee décida de mettre un terme à cette course-poursuite lamentable en posant le pied entre les omoplates du juge.
« Tu vas où comme ça, mon gars ?»
lui demanda-t-il sur le ton de la conversation. Ike avait toujours le revolver du patriarche à la main. Buddy Lee se pencha, attrapa Gerald par les épaules et le retourna sur le dos.
« Je vous en supplie !»
marmonna Gerald d'une voix rauque.
« Tu nous supplies de quoi ?»
aboya Ike.
« Me tuez pas. Je suis désolé. Je vous demande pardon. »
Son visage était luisant de transpiration. Tout autour d'eux, le craquement des flammes étouffait les bruits de la forêt.
« C'est facile d'avoir des remords une fois qu'on s'est fait choper, » dit Buddy Lee.
« Je vous en prie. C'est pas de ma faute. « Je suis malade. »«
Ah, t'es malade? Pourquoi? Parce que t'es attiré par les filles comme Tangerine ?»
voulut savoir Ike.
« Oui !»
s'exclama Gérald.
« J'ai besoin d'aide !»
Ike se pencha vers le juge et le regarda droit dans les yeux.
« Tu penses que mon fils aussi était malade? Et le sien? Et Tangerine ?» « Tu penses que tous ces gens méritent la mort sous prétexte que t'es pas capable d'assumer qui tu es ?»
Gérald resta silencieux, et Ike se redressa.
« Le pire, c'est que si mon fils était là, il aurait pitié de toi, » reprit-il. « Et si son fils était là, je parie qu'il te pardonnerait. »
Un petit clic lorsque Buddy Lee ouvrit son couteau pliant.
« Sauf qu'ils sont pas là, pas vrai ?»
dit-il.
Eh non,
répondit Ike. Ike et Buddy Lee remontèrent à travers bois le sentier qui menait au pick-up. Ils ne parlaient pas. Il n'y avait rien à dire. Ike se sentait tellement épuisé qu'il aurait pu dormir pendant un siècle. Son corps et son esprit étaient essorés. Et pour la première fois depuis une éternité, Buddy Lee n'avait pas envie de boire. Il ne voulait rien qui puisse altérer ce moment. Rien du tout. Lorsqu'ils atteignirent l'accès secondaire, ils virent tout de suite que la portière côté passager du pick-up était ouverte.
« Ariana ?»
appela Ike.
« Petit bout ?»
appela Buddy Lee. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Ils n'avaient pas fait tout ça pour que leur petite fille finisse perdue dans la forêt.
« Elle est ici !»
annonça une voix grave. Grayson se tenait devant le capot du pick-up, le bras gauche autour du cou d'Ariana. La main droite appuyant le canon du 357 Magnum contre la tempe de l'enfant.
« Jetez vos armes !»
ordonna-t-il. Son visage était souillé de sang et de poussière. De la salive s'échappait par filets de ses lèvres entrouvertes. À la lueur de la lune, on aurait dit le fantôme d'un véritable viking qui se serait enfui du Valhalla pour semer la terreur dans le monde des vivants.
« Lâche-la !» dit Ike. « Va te faire foutre !» « Jetez vos armes et lancez-moi les clés du pick-up !»«
Les clés ? Mec, t'es sûr que t'es en état de conduire ?»
se moqua Buddy Lee.
« J'aime pas me répéter !» grogna Grayson en grimaçant. « Alors grouillez-vous, sinon j'explose la tronche de cette petite connasse !»
S'ensuivit un silence qui sembla durer une éternité, et que Buddy Lee finit par interrompre.
« Ike, fais ce qu'il te demande. « Même mon père te dirait que la situation est désespérée. »
Ike dévisagea son compagnon, lequel hocha légèrement la tête.
« T'as entendu ton pote ?» dit Grayson. « Fais ce que je te demande !»
Pendant qu'Ike lâchait son revolver, Buddy Lee retira la bandoulière de son fusil et posa lentement l'arme au sol. Ike fit mine de chercher les clés dans ses poches sous le regard perçant de Grayson. Profitant de la diversion, Buddy Lee sortit son couteau de sa poche revolver et l'ouvrit discrètement dans son dos.
« C'est bon, je les ai »,
annonça Ike en faisant tinter le trousseau.
« Jette-la à mes pieds !»
ordonna Grayson.
« Et pas de coup foireux, hein ? Je suis pas en pleine forme. Un faux mouvement et je risque d'appuyer sur la détente sans faire exprès. »
Ike s'exécuta et les clés atterrirent à quelques centimètres des bottes du biker. Grayson s'accroupit, tâta le sol de sa main gauche sans lâcher Ariana. Lorsque ses doigts eurent trouvé ce qu'il cherchait, il se redressa et braqua le canon de son revolver sur Buddy Lee.
« Dommage que ce soit pas l'arme dont je me suis servi pour buter vos gosses !»
s'esclaffa-t-il.
« Laisse-la partir !»
cria Ike. Et Grayson se tourna brièvement vers lui. Buddy Lee saisit sa chance. Il lança le couteau, dont la lame se planta dans le cou du biker avec un bruit mat. Surpris, Grayson s'écarta d'Ariana et se mit à tirer au hasard en titubant comme un ivrogne. Ike plongea sur l'enfant, la plaqua contre son torse et se retourna pour la protéger de son corps. Le revolver glissa des doigts de Grayson. Un flot de sang aussi épais que du mercure coulait sous le couteau toujours enfoncé dans son cou. Par ignorance, ou peut-être par simple volonté d'accélérer l'inévitable, il attrapa le manche et retira la lame. Le sang jaillit comme un geyser, et quelques secondes plus tard, Grayson s'écroula de tout son long, face contre terre. Ike se leva, Ariana dans les bras. Elle ne pleurait pas. Elle n'émettait strictement aucun son. Ike songea que c'était encore pire. Il n'avait pas besoin de vérifier que le chef des bikers était mort. La flaque sombre dans laquelle il baignait parlait d'elle-même. Il s'avança vers Buddy Lee, qui était assis par terre, adossé au flanc du pick-up, les mains sur l'abdomen. Ike posa Ariana sur le capot, s'accroupit, et passa un bras autour des frêles épaules de Buddy Lee.
« Lève-toi, » dit-il. « Faut qu'on t'emmène à l'hosto. »«
Je crois pas que ça va suffire, mon pote, »
répondit Buddy Lee, en écartant les mains. Dans la nuit, son t-shirt gris était tellement imprégné de sang qu'il paraissait noir.
« Ferme-la et viens !»
insista Ike. Il fit mine de se redresser et Buddy Lee lui attrapa le bras. Ses doigts étaient humides et glacés.
« Je risque de louper le festin de la victoire !»
Ike s'accroupit à nouveau. La respiration de Buddy Lee était de plus en plus faible.
« Reste... « avec moi. »
Ike finit par s'asseoir à côté de lui et l'entoura de son bras musclé. Il avait l'impression de toucher un oisillon tombé du nid.
« C'est un cancer, hein ?» demanda Ike. « La toux et le reste. »
Buddy Lee acquiesça d'un mouvement de tête presque imperceptible.
« Tu penses que je vais croiser les garçons ?»
murmura-t-il dans un infime filet de voix. Ike se mordit la lèvre avant de répondre.
« J'espère, » dit-il.
« Moi aussi. »
Puis Buddy Lee s'effondra sur la poitrine d'Ike. Sa tête s'inclina sur un côté, et il ne bougea plus. Ike le serra fort contre lui, et resta assis dans cette position jusqu'à ce qu'Ariana lui demande.
« Il est fatigué ?»
Ike s'essuya le visage et allongea Buddy Lee par terre avec précaution.
« Oui, mais il va pouvoir se reposer maintenant. »